Et enfin, Enzo Godino, professeur de philosophie et doctorant en philosophie antique à l'université Bordeaux-Montaigne, a conclu ce cycle en montrant comment dépasser la perspective sceptique. Il a intitulé son exposé « L'insoutenable ignorance de l'être ».
Alors, pour le dernier exposé, donc, excuse à Enzo d'avoir poussé les délais jusque-là, mais donc Enzo, qui est doctorant à l'Université Bordeaux-Montaigne, va présenter une conférence, un exposé sur l'insoutenable ignorance de l'être.
Ben, merci beaucoup déjà pour l'organisation de cette belle journée, mais je pense que je vais devoir quand même commencer par des excuses pour ce titre un petit peu racoleur. Et imprécis dans sa référence, parce que vous le savez, chez Kundera, la légèreté de l'être est insoutenable au sens où elle est impossible à supporter. C'est-à-dire que la transformation continue des gravités présentes en choses dérisoires, en images kitsch, puis en choses oubliées, crée chez celui qui l'éprouve une conscience pénible de la vanité. En fait, c'est l'absence de consistance des choses, leur indépassable vanité, qui est insoutenable, c'est-à-dire insupportable. Alors ici, j'emprunte la formule en opérant un léger décalage, parce qu'en parlant d'insoutenable ignorance de l'être, je voudrais essayer d'examiner dans quelle mesure nous ne connaissons pas l'être ou ce qui est n'est pas connaissable, ou l'affirmation selon laquelle ce qui est n'est pas connaissable est impossible à soutenir au sens de impossible à défendre et pas forcément impossible à supporter, encore que. Et par là, je voudrais proposer une forme de contribution négative, en fait, à la question qui nous préoccupe aujourd'hui, à travers des arguments dont je ne saurais revendiquer l'originalité sans injustice, parce que ma contribution va reposer grandement sur des arguments très anciens qui remontent au moins, me semble-t-il, à l'opposition entre Arkésilas et Zénon sur la question de la représentation cataleptique, et dont on peut également trouver des traces chez certains penseurs, dans les témoignages de certains penseurs issus de la tradition abderitaine, comme Démocrite ou Pirandellis. On peut voir que en fait, l'idée est à chaque fois de contester le pessimisme gnoséologique défendu par certaines traditions sceptiques ou proto-sceptiques, en montrant l'impossibilité de défendre l'ignorance de l'être, en fait en insistant sur le fait que l'affirmation selon laquelle l'être est inconnaissable est insoutenable, au sens où il est impossible de la défendre sans contradiction. Chez les anciens, cette question s'est cristallisée autour des polémiques qui ont été dirigées contre les différentes traditions sceptiques, donc contre le pyrrhonisme dans ces deux mouvements, pyrrhonisme originel et le nouveau pyrrhonisme de Sextus Empiricus ou dans la nouvelle académie, mais également contre tous les philosophes qu'on a pu leur apparenter parce qu'ils avaient des tendances sceptiques, soit chez les présocratiques, soit dans certains moments de la tradition platonicienne. En fait, en accusant de contradiction ceux qui disaient que l'être est inconnaissable ou qui remettaient en cause notre capacité à saisir ce qui est tel qu'il est, ces penseurs mirent en évidence une connaissance minimale de l'être et qui pouvait servir de point de départ à toute recherche à son sujet, à savoir qu'à minima, l'être est connaissable. En fait, c'est une première assertion qui est fondée sur un constat logique que si l'être est inconnaissable, il y a une contradiction dans l'énoncé et qui dépasse la seule connaissance fondée sur la logique qu'on peut avoir de l'être ordinaire, c'est-à-dire la tautologie de Parménide que l'être est. En fait, je vais essayer de vous proposer de parcourir rapidement ces lignes d'opposition afin d'évaluer si l'ignorance de l'être est absolument insoutenable et s'il est possible, à partir de la contradiction des énoncés sceptiques concernant l'accessibilité de l'être ou notre puissance à le saisir, de fonder par une voie qui va être négative à plusieurs titres une connaissance minimale de l'être. Alors, les premières conceptions défendant une inconnaissabilité de l'être appuyèrent une telle conception sur une philosophie résolument matérialiste et paradoxalement sur un pessimisme gnoséologique très modéré. Il ne s'agissait pas tant de dire que toute connaissance était impossible, mais bien que l'être en lui-même, ce qui est véritablement, est inaccessible à notre connaissance. Ainsi, chez Démocrite, par rapport auquel vont se positionner pratiquement tous les penseurs que je vais évoquer par la suite, l'affirmation fameuse selon laquelle « nous ne savons rien car la vérité est dans le puits » pose que l'être est inconnaissable au sens où il est inaccessible. Mais elle ne soutient pas que l'on connaît l'être en tant qu'il serait inconnaissable. En réalité, chez les penseurs abéritains qui vont reprendre Démocrite, on observe que l'étang véritable est inaccessible directement, mais qu'on peut en connaître de multiples aspects. En fait, la structure du raisonnement démocritéen est assez facile à comprendre. Ce qui est immédiatement et incontestablement accessible pour nous, ce sont les apparences, les phénomena, pas les sensations. Et theta, parce que la sensation serait un indice d'une qualité qui serait présente dans la chose. Simplement, pure apparence. Ces choses qui apparaissent sont variées, qualifiées et peuvent être appréhendées dans le détail. Par exemple, dans du miel, je perçois qu'il est jaune, doux, sucré, visqueux, etc. Elles apparaissent aussi différemment selon les individus. Donc, je suis malade ou non, le miel m'apparaîtra sucré, amer, agréable, agréable, etc. Or, si elles apparaissent différemment selon les individus, alors on ne peut pas dire qu'elles sont davantage ainsi qu'autrement. Le miel n'est pas en lui-même sucré ou non sucré, ou sucré et non sucré, ni non sucré ou non non sucré. C'est le fameux umalon démocritéen, pas davantage ceci qu'autre chose, ni et l'un et l'autre, ni l'un ni l'autre. En fait, du coup, ce que les choses sont véritablement ne nous est pas accessible sur la seule base des apparences que pourtant nous saisissons fermement. Les apparences n'indiquent rien d'autre qu'elles-mêmes, elles ne sont pas des indices fiables de l'être. Mais en réalité, alors là c'est une affirmation fameuse de Démocrite qu'on retrouve assez facilement dans le volume des présocratiques sur Démocrite, vous savez, convention que le doux, convention que la mer, etc. Donc nomoi, 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 avec toujours la même reprise. Et en vérité, étaye, les atomes et le vide. Donc derrière les apparences, il y a quand même quelque chose qui est connu d'être, c'est les atomes et le vide. Mais atomes et vides sont qualifiés négativement vis-à-vis de nos capacités de saisie. Ils n'ont pas de qualité, sont illimités en grandeur, en forme, en nombre, d'une infinie variété, et ils sont inaccessibles aux distinctions que l'on peut opérer par contre sur les phénomènes. En fait, on peut inférer l'existence de la matière insécable, du vide qui constitue l'espace qui rend son mouvement possible. On connaît certaines qualités de façon très général. Chez Démocrite, on va connaître le fait qu'elles ont grandeur et figure, sans pour autant pouvoir saisir leur grandeur particulière ou leur figure particulière. Et Épicure rajoutera le poids pour pouvoir avoir l'explication du mouvement dans le vide. Mais l'être est inconnaissable au sens où la connaissance se définissant par la saisie et la détermination de ce que les choses sont effectivement, cette saisie m'est inaccessible. Il est impossible d'effectuer une saisie ponctuelle de l'être, car l'être dans son ensemble nous dépasse. Le nombre infini des atomes rend à la fois impossible une appréhension globale et leur qualification particulière. Donc, du coup, tout énoncé les concernant se verrait son exactitude anéantie comme un point dans l'infini. Alors, il y a des passages sur la description des atomes à la fois très vagues et qui signent cette incapacité de saisie que vous pouvez trouver dans le fragment A38 qui est extrait du commentaire de la physique de Simplicius. Mais force est de constater qu'une telle description est déjà une connaissance. On sait au moins que l'être est composé d'atomes et de vide, et si cet être est uniquement qualifié par des termes mentionnant les différentes façons dont nous échouerions à les appréhender, impossibilité de les dénombrer, impossibilité de les qualifier, impossibilité de les saisir dans leur ensemble, ben, au moins nous savons que l'être est matériel au sens où il est composé d'atomes et de leur lieu, le vide, même si toute appréhension plus précise nous serait interdite. Et donc, du coup, dans cette tradition, dans l'unité immédiate qui suit Démocrite, l'accusation d'autocontradiction n'est pas réellement anticipée, mais elle est plutôt évitée de justesse. En fait, en sauvegardant un précaré pour la connaissance, on évite de déclencher le ressort sur lequel vont reposer toutes les accusations d'autocontradiction, à savoir l'idée qu'on connaît l'inconnaissable, c'est-à-dire que l'objet de la connaissance annulerait l'acte même par lequel on est censé le connaître. Mais on peut déjà pressentir dans ce moment de la tradition démocritaine ce qui va constituer peut-être pas un schisme, mais en tout cas une fracture entre l'optimisme un peu béat de l'épistémologie épicurienne qui fait une confiance absolue à la sensation pour saisir les choses telles qu'elles sont effectivement, et d'un autre côté, le pessimisme gnoséologique d'un Pyrrhon qui élève des abdérites. Ce constat-là donc radicalisé chez Pyrrhon et par la tradition pyrrhonique. Cette radicalisation est opérée sur la base de deux positions qui vont être caractéristiques de la philosophie pyrrhonienne, et qui intègre cette fois-ci le risque de l'autocontradiction en cherchant l'éviter. La première de ces caractéristiques se trouve dans un programme philosophique du pyrrhonisme qui nous est connu par le truchement d'Eusèbe de Césarée, donc c'est au chapitre 18 ou livre 14 de la préparation évangélique. Alors, ce texte est une véritable épreuve herméneutique, puisque, en fait, c'est Eusèbe de Césarée qui cite Aristoclès, qui rapporte des paroles qui auraient été tenues par Pyrrhon, citant ce que, qui auraient été tenues par Timon de Fliante, citant ce qu'aurait dit Pyrrhon. Et en plus, je vais vous lire le texte, s'ajoute à ces difficultés environ une trentaine d'interprétations contradictoires des différents adjectifs employés pour décrire l'être tel qu'il serait. Donc, les commentateurs ont jugé bon d'ajouter du bruit au bruit parce que la concaténation de sources diverses plus la diaphonie des interprétations rend ce texte parfaitement inintelligible, au moins jusqu'à la publication de ma thèse. mais bon. Donc, ce texte qui de Zèbre de Césarée propose un programme philosophique en trois temps, qui consiste, je cite, à saisir comment sont naturellement les choses, ensuite comment nous devons nous positionner par rapport à elles, puis ce qui en résulte pour celui ainsi disposé. Il dit, c'est censé être Timon, il dit donc d'abord que Pyrrhon affirmait que les choses sont également épicès, indifférentes, instables et indistinctes. À cause de cela, nos sensations ni nos opinions ne disent la vérité ni ne mentent. Et à cause de cela, il ne faut pas s'y fier, mais être sans opinion, sans inclinaison, inébranlé, en disant pour chacune des choses que pas davantage elle l'est ou qu'elle n'est pas, ou que elle n'est et n'est pas, et que ni elle n'est, ni elle n'est pas. Pour ceux qui sont ainsi disposés, Timon dit que surviennent d'abord l'aphasie, ensuite l'ataraxie, et à ce que dit Hésidème, le plaisir. Donc là, vous voyez vraiment l'accumulation des différentes sources. Je vous propose de laisser de côté la troisième partie du programme philosophique et l'ancien, savoir ce qu'il en résulte pour ce bien s'y disposer, bien que je pense qu'elle soit capitale pour comprendre que le scepticisme est avant tout une philosophie d'ambition morale et pas gnoséologique. Mais pour ce qui concerne la première partie du programme, les propriétés énoncées apparaissent tout à fait conséquentes avec l'enseignement des derniers abéritains qui marquèrent profondément Pyrrhon. Il apparaît tout à fait possible de considérer que les choses sont en elles-mêmes également indifférente, instable et indistincte, épicès adiaphora, astatmeta, kai aenekrida, dès lors qu'on considère que l'existence des choses doit se traduire en termes d'atomes et de vide, infini et insaisissable. Parce que même s'il existe une immense variété dans les atomes qui présentent des différences incontestables de grandeur, de figure, etc., les uns par rapport aux autres, leur infinité contribue, comme l'infinité du vide, à les rendre également indifférents entre eux, puisque précisément il n'y a aucune forme qui va l'emporter quantitativement sur une autre. Aucun être ne vient faire la différence dans l'infinité des atomes et du vide, qui sont eux-mêmes quantitativement indifférents puisqu'infinis. L'infinie quantité et variété des atomes les rend paradoxalement indifférents entre eux et ne permet pas de les différencier. Et c'est cette même infinité qui crée l'instabilité des choses, puisque précisément l'infinité du vide et des atomes les condamne au changement perpétuel. L'infinie variété des atomes ontologiquement indifférenciés produit un mouvement continu dans le vide qui conduit à la disparition de toute essence stable sur laquelle appuyer une quelconque connaissance. Tout au plus, on peut prétendre fixer conventionnellement des essences artificielles par l'usage des noms, mais les choses mêmes sont telles qu'elles ne peuvent être saisies. Dès lors, il n'est pas possible de trouver un quelconque critère qui rendrait possible la distinction des êtres et leur appréhension cognitive, puisque précisément elles nous échappent continuellement en raison de leur indifférence réciproque et de leur constante dérobade. La nature négative des choses les rend imperméables à un quelconque critère d'intelligence de ces choses. Mais en fait, même si c'est dans la continuité des abilités, on constate qu'il y a vraiment un renversement par rapport à Démocrite. En fait, toutes les capacités de saisie ne sont plus simplement limitées, mais elles deviennent absolument inopérantes. L'être n'est plus au-delà de la saisie, mais bel et bien insaisissable et inconnissable par lui-même. Les qualifications négatives qui ont été empruntées à la tradition abiritaine pour qualifier les choses mêmes ont pour conséquence l'inutilité de nos facultés et l'impossibilité d'établir un quelconque critère de saisie. Ce n'est plus parce que les choses sont au-delà de nos capacités de saisie qu'on affirme qu'on ne les connaît pas, mais bien parce qu'elles sont inconnaissables en elles-mêmes qu'on constate l'inutilité de nos facultés. L'ignorance de l'être n'est plus la cause de sa qualification comme inconnue, mais bien plutôt son inconnaissabilité nous conduit à constater notre ignorance comme un effet. La deuxième grande caractéristique de la philosophie pyrrhonienne employée, c'est consiste en l'emploi de l'expression oumalon, pas davantage, vous savez, pas davantage ceci que cela, vous pouvez quand même déjà chez Démocrite. et qui permet d'éviter la contradiction qu'il y aurait à dire qu'on connaît l'inconnaissabilité de l'être. C'est tout le passage qu'on a vu sur le disent la vérité ni ne mentent, où on se dit qu'est-ce que c'est que cet état intermédiaire. En réalité, cette position repose sur un emprunt à un philosophe intermédiaire de la tradition américaine dont vous n'avez probablement, enfin, normalement je vous le souhaite en tout cas, jamais entendu parler, qui est Métrodore de Chio, illustre inconnu prédécesseur d'Anaxarque d'Abdère, c'est à peu près deux générations après Démocrite, et qui est connu pour une seule phrase, mais qui est vraiment une position assez fascinante, je trouve. Il y a un excellent article de Jacques Brunschvicg qui résume les six versions qu'on a de cette phrase et en fait l'analyse. Ça s'appelle le fragment DK70B1 de Métrodore de Chio. C'est pas très attirant comme ça, mais en réalité, c'est un article vraiment fascinant. Position que j'ai choisi de nommer dans ma thèse. Attention, cette présentation recourt au placement de produits. Position que j'ai décidé de nommer dans ma thèse, l'ignare ignorance, par opposition à la docte ignorance socratique, puisque la docte ignorance socratique ignore tout excepté elle-même, tandis que là, l'ignare ignorance de Métrodore de Chios ignore tout, y compris sa propre ignorance. Puisque la phrase exacte, c'est « personne parmi nous ne sait rien, et pas même cela même, si nous savons ou si nous ne savons pas ». Alors, cette position est imparable logique. Si nous ne savons rien, pas même cela, si nous savons ou nous ne savons pas quelque chose, nous ne pouvons pas à la fois tenir que l'être est effectivement, nous pouvons à la fois tenir que l'être est effectivement inconnaissable au sens le plus fort du terme, puisque quand bien même nous le connaîtrions, c'est-à-dire si nous le saisissions effectivement tel qu'il est, nous ne serions pas en mesure de distinguer cette saisie de l'ignorance. En fait, si connaissance de l'être il y avait, on n'en ferait jamais l'épreuve, on ne pourrait jamais la vérifier. Mais elle ne résiste pas à une autre objection, qui est l'objection de la vanité, que soulevait déjà Eusèbe de Césarée dans les premières lignes par lesquelles il introduisait la citation difficile dont je vous parlais tout à l'heure, au début du chapitre 18 du livre 14. Il faut avant tout examiner notre propre connaissance, car si nous ne pouvons rien connaître naturellement, il n'est plus nécessaire d'examiner le reste. Pour pouvoir défendre l'inconnaissabilité de l'être, il faut mettre à mal toute prétention à connaître quoi que ce soit et donc saboter toute forme de pensée, y compris celle qui pose cette ignorance dont nous ne sommes même pas certains. L'ignorance de l'être devient alors insupportable, non seulement parce qu'elle ne parvient pas à décoller l'accusation d'autocontradiction qui va être sans cesse réanimée contre elle, mais aussi et surtout parce qu'elle détruit la légitimité même de la pensée qui la fonde. Penser à l'ignare ignorance, c'est penser à vide ou penser pour rien, en fait. Ça n'est pas exactement une position absurde, puisqu'elle est imparable logiquement, mais c'est un acte absurde qui ne se tient plus. Voilà pour ce qui concernait la tradition abdéritaine et pyrrhonienne. Mais ce lien entre accusation d'autocontradiction et défense de l'ignorance de l'être trouve également ses racines dans le débat qui a opposé Arquésilas, qui doit être peut-être un peu plus connu que Métrodore de Chio, mais pas beaucoup plus en général, à Zénon de Citium sur la question de la représentation cataleptique, controverse qu'on trouve transcrite dans les académiques de Cicéron. Dans cette controverse, il y a un déplacement de la question du rapport entre l'individu connaissant et l'être vers la question de la définition de la connaissance elle-même. La recension qu'en donne Cicéron, dans un passage très probablement inspiré dans Théocrite d'Escalon, nous dit que l'affrontement aurait subi cette ordre. Zénon commence par poser deux définitions. La première, c'est que le sage n'a pas d'opinion. C'est-à-dire qu'il ne va pas donner son assentiment à la légère. Il ne donnera son assentiment qu'à des connaissances fermes, exactement conformes à ce qui est. La deuxième, c'est que la représentation cataleptique est une représentation exactement conforme à ce qui est. C'est là que ça se corse. Arquésilas va donner son accord à la première proposition. À mon sens, très certainement, parce qu'il cherche à coincer Zénon par une accusation d'apraxie. En fait, il veut défendre un vieux concept platonicien qui est le concept de l'opinion droite et montrer qu'on peut tout à fait agir en donnant son assentiment à des formes de connaissances plus précaires. Et c'est ce qui explique qu'il va refuser la seconde de la manière suivante. Il va demander ce qui se passerait, c'est pour ça que je parle d'objection d'apraxie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il se passe pratiquement si jamais on se retrouve dans cette situation, si la représentation cataleptique, c'est-à-dire celle qui est exactement conforme à ce qui est, pouvait être exactement identique à une représentation produite par ce qui n'est pas. Les représentations telles qu'on peut les avoir dans les rêves, dans l'ivresse, dans les Là, vous avez toute la série des illusions, enfin des représentations illusoires qui donnera lieu aux tropes sceptiques par la suite, etc. Alors, Zénon répond que cela n'arrivera pas, puisque précisément, il y a une différence entre ces deux types de représentations, les unes ayant plus d'éclat que les autres. Mais il va préciser sa définition en disant que la représentation cataleptique est une représentation conforme à ce qui est, de telle façon qu'elle ne saurait être produite par ce qui n'est pas. Et c'est le dernier aspect de la controverse qui va se maintenir pendant les 200 ans où les académiciens vont se battre contre les stoïciens, nous dit Cicéron. Constamment chercher à ranimer l'idée que si une représentation produite par ce qui n'est pas peut avoir la même force persuasive qu'une représentation produite par ce qui est. Carnéade, que normalement les leibniziens ici connaissent, puisque comme le dit un commentateur, c'est un spectre qui revient continuellement dans l'œuvre de Leibniz. Je crois que le commentateur, c'était Robinet, pour citer la source. Mais Carnéade va reprendre la même stratégie avec de légères modifications. En fait, il est à partir du fait qu'on ne saisit pas ce qui est faux, puisqu'on ne saurait parler de saisie de ce qui n'est pas. Il faut avoir quelque chose à saisir. Et du fait que de deux représentations semblables et d'égale force persuasive, l'une ne saurait être saisie tandis que l'autre ne l'est pas. Et donc, du coup, la représentation cataleptique n'a jamais lieu parce qu'on ne saurait prouver une représentation telle qu'une représentation fausse ne puisse être présentée avec le même éclat. Ou alors, il va jouer après sur d'autres types d'argumentation de Sourit, où il va dire que voilà la dernière des représentations, la moins claire des représentations cataleptiques est voisine de la plus claire des représentations non cataleptiques. Et comment on les distingue? Parce que finalement, c'est un œuf et un autre. Donc, c'est là-dessus que va jouer l'argumentation. On voit en fait que c'est la même argumentation qu'Arquésilas, c'est simplement une petite variation dans l'ordre des raisons. Toute la question, c'est juste de savoir s'il y a une représentation d'éclat suffisante, de telle sorte qu'on puisse l'identifier à la représentation cataleptique, c'est-à-dire à une saisie de ce qui est tel qu'il est effectivement. La difficulté pour les académiciens va tenir dans le fait de maintenir une position qui est essentiellement dialectique, qui cherche juste à entretenir la controverse contre les stoïciens, comme une position philosophique qui caractérise leur mouvement. Et c'est ce que dit, avec beaucoup d'ambiguïté, Cicéron, que reprendra saint Augustin dans son traité contre les académiciens. Puis l'argument revient dans les trois premiers traités de jeunesse de saint Augustin. Mais Cicéron dit exactement qu'Arquésilas a nié, négabat, la proposition d'Arquésilas selon laquelle il y a quelque chose qu'on peut effectivement saisir. Quod percipi possède, pardon. C'est-à-dire, en fait, quelque chose qui correspond à la définition de la représentation cataleptique. Ça pose plusieurs difficultés comme formule, parce que vous le savez, le verbe négare en latin veut dire à la fois nier et affirmer que non. Et les deux emplois sont attestés chez Cicéron. Donc, le même témoignage peut dire à la fois Arquésilas a nié qu'il y avait quelque chose qui correspondait à la représentation cataleptique et Arquésilas a affirmé qu'il n'y avait aucune représentation cataleptique. Ce n'est pas du tout la même position à défendre. On passe du dialectique au dogmatique, en fait. Et les autres témoignages censés clarifier la position d'Arquésilas sont tout aussi ambigus. Parce que Sextus Empiricus, par exemple, nous dit qu'il défend la proposition « panta a catalepta », toutes les choses sont insaisissables, et non pas « uden catalepta », il n'y en a aucune qui soit saisissable. Ce n'est pas du tout la même chose. Lactance, dans le même genre, fait des successeurs d'Arquésilas des défenseurs de la catalepsie, en utilisant le concept acatalepsia, en disant par exemple que l'acides, le successeur immédiat d'Arquésilas, défendait la catalepsie comme un dogme. Il y a qu'un problème, c'est que ces auteurs sont très tardifs, et qu'en général, ils ont un décalage de 2 siècles par rapport à la première apparition du concept d'acatalepsie, qui va connaître une véritable explosion lexicale avec les pères de l'Église, puisqu'il va désigner l'insaisissabilité de Dieu, pardon. Mais ce concept n'existe pas avant le 1er siècle, et malheureusement, Arquésilas et Carnéade sont des auteurs du 2e siècle avant Jésus-Christ. Donc, il y a peut-être une difficulté historique qui se pose. Mais donc, que veulent dire ces témoignages et l'ambiguïté qu'ils traitent? Si on s'en tient au sens dialectique du verbe négaré, l'idée qu'une connaissance de l'être n'est pas entièrement remise en cause. Ce qui est contesté, c'est l'idée qu'il y a une connaissance adéquate et parfaite de l'être. Qu'on saisit ce qui est exactement comme il est, sans pouvoir être abusé par ce qui n'est pas. Et en ce sens, l'idée d'Arkésilas, c'est simplement de montrer que la définition de Zénon de la représentation cataleptique recouvre un ensemble vide, mais qu'on peut avoir des saisies plus précaires des choses. Si l'on retient les autres témoignages, beaucoup plus douteux historiquement, donc ceux de Lactance, de Cicéron, de Sextus, mais à mon avis philosophiquement plus intéressant, on va se heurter à l'accusation d'autocontradiction. Parce que si on soutient que toutes les choses sont insaisissables, panta catalepta, ou si on accorde qu'il existe quelque chose comme la catalepsie, on défend la proposition la catalepsie est le cas, pour parler comme les modernes, on se heurte toujours à l'accusation d'autocontradiction. Parce que la proposition panta acatalepta se contredit de deux façons. Si elle est vraie, elle doit s'englober elle-même, donc sa vérité n'est pas saisissable et on est ramené à la posture de linéaire ignorance. Ou alors, si elle est effectivement saisie, ben elle est fausse. Parce qu'il y a au moins une chose de saisie, la proposition panta acatalepta. De son côté, la proposition la catalepsie est le cas se heurte à des difficultés séminaires, parce que soit elle qualifie l'état d'un sujet incapable de saisie, de catalepsis, et donc il ne peut pas saisir cette impossibilité de saisie elle-même, soit elle qualifie un état du monde en universalisant une propriété des choses mêmes, le fait d'être insaisissable, et alors il faut reconnaître, comme dans le cas de Démocrite, soit qu'on se trompe en émettant un tel énoncé, soit qu'on saisit au moins de façon paradoxale l'insaisissabilité de l'être. Alors, les académiciens vont progressivement se rendre compte de cette difficulté et de la porylogie qui s'y présente. Ils vont tenter de la résoudre en défendant la dernière position vraiment académicienne sceptique qu'on peut trouver, qui est citée par Cicéron, qui est celle de Philon de Larissa, qui consistait à défendre que l'être est en lui-même saisissable, même si nous ne le saisissons pas. Alors, on peut se demander quel est l'intérêt d'affirmer la saisissabilité d'une chose qu'on ne peut pas saisir. En réalité, cette position prend acte du fait qu'on ne peut pas, sans contradiction, attribuer à l'être lui-même la cause de notre ignorance, même si on peut toujours incriminer notre impuissance. En somme, l'ignorance de l'être n'est pas impossible en tant qu'état d'un sujet déficient, mais elle est impossible à soutenir parce que toute défense de l'impossibilité de saisir l'être tel qu'il est, soit en raison des déterminations même de l'être, soit en raison d'un état de fait universel, comme l'idée que la catalepsie est le cas, repose elle-même sur une connaissance. Bon, pour conclure, que retenir de ces tentatives sceptiques qui piétinent, qui cherchent sans cesse à légitimer l'ignorance qu'elles éprouvent, mais sont incapables de la défendre sans contradiction? C'est vrai que ça donne quand même une impression un peu frustrante dans l'exposé d'une succession d'achoppements dont les différences ne peuvent sembler n'être que de faibles nuances. Et en réalité, on constate que cette succession d'échecs permet de fonder négativement deux connaissances minimales au sujet de l'être. Vous voyez, je vous en ai promis une, finalement, il y en a deux. Il est connaissable et son ignorance nous serait insupportable. Il ne vous a pas échappé que les arguments que je vous ai présentés ne suivaient pas seulement l'ordre chronologique de leur apparition, mais également qu'ils suivaient une sorte de resserrement progressif jusqu'à atteindre la seule façon dont l'ignorance de l'être puisse être défendue, à savoir comme une impuissance constatée chez un individu particulier, comme une déficience d'un sujet individuel et non comme l'état de l'universel. Et ces différents arguments procédaient également par une forme d'épuisement logique, puisque dans tous les cas, on constatait que la proposition que l'être est inconnaissable est conduite à sa contradiction. Parce que décrire l'être d'une façon qui rende sa saisie impossible revient à devoir fonder sa connaissance en tant qu'insaisissable, donc fonder une connaissance de l'être qui se contredit. Poser que la saisie de l'être n'a pas lieu revient également à poser le paradoxe d'une saisie de ce que l'être est insaisissable. Et enfin, affirmer que l'être est inconnaissable, non pas au sens d'une impuissance individuelle, mais comme un fait universel, revient à défendre linéaire ignorance au prix d'une pirouette logique et qui doit nous conduire à ne plus pouvoir penser et exprime du même coup la vanité de la pensée qui la fonde. Il faut en effet ou bien supposer que la proposition panta catalepta conteste la valeur de la description zénonienne de la représentation cataleptique sans pouvoir remettre en cause la connaissabilité de l'être, soit qu'elle pose un constat contradictoire, à savoir qu'elle doit s'exclure du constat qu'elle pose, en tant qu'elle prétend saisir l'être en tant qu'il est insaisissable. Donc on voit en fait que non seulement l'être ne saurait être qualifié comme inconnaissable sans contradiction, mais l'ignorance de l'être nous est personnellement insupportable, puisqu'elle est insoutenable tant pour celui qui cherchera à la défendre philosophiquement que pour l'être pensant qu'il éprouve.